Une keynote monstrueusement rapide, oui, 30 minutes montre en main pour annoncer la nouvelle famille tant attendue de processeurs M3, avec, et c'est une première, 3 puces dégainées d'un seul coup si on ajoute le M3 Pro et le M3 Max.
C'est pas dans cet ordre-là qu'on attendait la sortie des processeurs. Hein. On en a parlé dans la quotidienne. Apple a pris un peu tout le monde à contre-pied puisqu'ils ont commencé par annoncer des produits Pro et Super Pro. Tant mieux. Mais ça veut dire qu'ils maîtrisent tellement maintenant les processeurs qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est génial.
Avec cette nouvelle génération, la première gravée en 3 nanomètres, Apple inaugure un nouveau design nuancé par quelques choix à minima. Toutes les explications à suivre avec notre invité, Frédéric Crassat.
Effectivement, le Max, lui, il explose. Il explose, il est à 92, au frôle les 100 milliards de transistors. C'est un monstre, c'est ce qu'on peut faire de plus gros, en fait.
C'est dingue.
Là, vous voyez en rouge, je vous ai aligné les CPU performance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur la première rangée tout en haut et 4 de plus. Donc, on est à 12 CPU performance. Et vous voyez qu'on n'a que 4 efficiency core, les puces économiques. Ouais. Donc là, c'est un mastodonte en termes de calcul CPU. Je pense qu'Apple a vraiment voulu cette année dire aux gens qui achètent des Macs, vous allez avoir vraiment une performance CPU qui sera très, très différente de ce que vous avez avec le Pro.
Qui dit nouveau processeur dit nouveau Mac. On n'osait pas espérer les nouveaux MacBook Pro en M3 avant le début 2024. Et pourtant, les voici, tout comme le nouvel iMac M3, plus de 900 jours d'attente. Et toujours notre même conseil, ne prenez pas le modèle d'entrée de gamme, mais l'iMac intermédiaire au moins. En attendant, son grand frère à écran 30 ou 32 pouces, sans doute dans le courant de l'année prochaine. iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 160. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial débrief de la keynote de lundi soir, lundi nuit devrais-je dire plutôt, puisqu'il était 1h du matin, un horaire très inhabituel pour découvrir la famille M3, les nouveaux MacBook Pro et le nouvel iMac. Merci de votre fidélité, merci d'être au rendez-vous. Vous d'abord les amis de la Team iWeek, salut Elia Bitbol.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde.
Ravi de te retrouver, toi le cofondateur de MCS à Nice, Canet-Aix-en-Provence.
Merci, je suis ravi d'être de retour parmi vous.
Une bonne actualité pour toi, évidemment. Gilles Dounès, aussi avec nous. Salut Gilles.
Salut Benjamin, salut Fred, salut Elie, et bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver Fred et Elie, qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment.
Absolument, Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef, je le rappelle, de MacPlus.net. Et puisque tu l'as mentionné, il est de retour aussi avec nous. Lui, c'est Frédéric Crassat. Salut Fred.
Bonjour Benjamin, oui, ravi d'être là pour cet événement très silicium, comme je les affectionne.
Et oui, tu es expert en composants et notamment en processeurs. Hein. C'est la énième fois que tu nous fais l'amitié de revenir dans iWeek. Et on est très heureux de t'avoir pour décrypter cette gamme M3 qui nous a fait rêver avant, qui nous a fait rêver pendant. Et tu nous diras si elle doit et si elle peut encore nous faire rêver après la keynote de lundi soir. Alors, on va en parler dans une minute. Ne bougez pas. Juste un petit rappel, ainsi comme nous, l'actu Apple vous passionne. On vous donne rendez-vous du lundi au vendredi avec la quotidienne iWeek. C'est l'autre podcast de la team iWeek. Abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek sur toutes les grandes plateformes de podcast. Dans un instant, retour sur les annonces de lundi soir. Les nouveaux Mac et bien sûr, les nouveaux processeurs M3. À tout de suite. Apple nous a pris par surprise en annonçant une keynote pour le 30 octobre aux États-Unis, alors que nous n'attendions plus rien avant la fin de l'année, à part peut-être quelques annonces via des communiqués de presse. Et finalement, c'est bien à une vraie keynote qu'on a eu droit. Cet Apple Event baptisé Scary Fast, monstrueusement rapide. Alors, on pensait que le monstrueusement rapide faisait référence à la puissance des produits qui allaient être annoncés, pas seulement, puisqu'on s'est retrouvé avec la keynote la plus courte de l'histoire, une demi-heure, et c'était plié, 30 minutes montre en main. Alors, avant de rentrer dans le détail des annonces avec vous, mes amis, petit tour de table pour connaître votre sentiment sur cet événement. Bah, d'abord, sa forme, sa durée, et puis bien sûr son contenu. Qui veut commencer ? Allez, Eli, allez.
Me jette à l'eau.
Ça fait longtemps.
Oui. Alors, une keynote très, très différente et presque on pourrait y prendre goût parce qu'il y avait la qualité visuelle, les effets des keynotes, mais c'est la première fois, je te l'avoue, depuis que je regarde des keynotes Apple, que je les regardais depuis mon lit. Alors, on pourrait s'habituer, honnêtement. C'était sympa. Et c'était assez rapide et très condensé. Donc, ouais. On va en parler en détail. Je ne veux pas déflorer dès le départ.
Bien sûr, bien sûr.
Mais pour moi, c'était une bonne keynote.
Bon. Gilles, ton sentiment, tu ne l'as pas regardé en direct, si ?
Non, je l'ai regardé le matin. Et pour moi, ils ont coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Ce n'est pas Fred, le Landais, qui me contredira, histoire de prendre la vague de la reprise des ventes en 2024, qui est attendu, histoire d'être prêt et d'avoir du matériel flambant neuf et très, très alléchant, alors que tout le monde devra attendre le deuxième semestre 2024 avant d'avoir du 3 nanomètres. Ouais. Eux seront prêts quand les gens, quand les entreprises, quand les gens vont vouloir renouveler leur ordinateur, ils seront là. Et c'est d'ailleurs à eux qu'il s'adressait. On en reparlera.
Ouais. Fred, ton sentiment alors, sur la forme, sur l'horaire, sur le timing ?
Ouais, l'horaire, j'étais un petit peu étonné. Effectivement, c'est la première fois, hein, je crois, qu'on a ça. Moi, je ne l'ai pas vu en direct. J'étais en congé. Donc, je l'ai vu, je l'ai téléchargé le matin avant de prendre le train pour venir à Bordeaux. Au niveau esthétique, c'était magnifique. Je trouvais que l'ambiance était là, les visuels quand on arrive sur Tim Cook avec la fumée, tout ça, c'était extrêmement bien fait. Après, on sait que ça a été filmé à l'iPhone Pro Max, oui. Mais c'est vrai qu'on voit rien. C'est vraiment nickel. La lumière était magnifique. Et surtout, là, ce que j'affectionnais, j'attendais enfin Johnny Srouchi. J'étais un petit peu frustré, Benjamin, parce que pour la 17, il était pas là.
Je sais.
Et c'est vrai que là, je sais pas si vous l'avez vu, mais la façon dont il était filmé, tout le lab était en noir. Les meubles étaient gris, anthracite. C'était super beau. Ça présageait évidemment de la nouvelle couleur. Mais il y a un soin qui a été vraiment, et puis j'adore, il parle avec ce petit accent, etc. Et il a bien présenté. Alors moi qui adore le hardware, là j'étais vraiment aux anges. C'était compact, effectivement, c'était bien. Bon, il n'y avait pas la partie iOS, il n'y avait pas la partie macOS. Donc c'est vrai que ça servait à rien de la faire durer. Mais une demi-heure, c'était quand même pas mal du tout. Hein. Moi je trouvais que c'était pas mal. Ouais.
Bon, on va commencer par parler des Mac hein, qui ont été annoncés. Après, on va revenir en détail sur cette famille de processeurs M3. Eli, je me tourne à nouveau vers toi. Alors, on va pas encore parler de ce qu'on a appris après, mais en tout cas sur ce qui a été annoncé pendant la keynote, est-ce que tu as eu le sentiment qu'Apple était au rendez-vous de notre attente et de nos espoirs ?
Ben écoute, totalement, parce que en plus, on avait dit exactement ce qui allait être annoncé. Pour une fois, on a fait du 100% juste. Hein. Donc, en même temps, j'étais assez fier qu'on ne se soit pas planté, comme généralement dans les keynotes. Il y a toujours le truc qu'on a oublié, le truc qu'on n'attendait pas et tous les trucs qu'on attendait qui n'ont pas été annoncés. Là, ils ont annoncé tout ce qu'on pensait qu'ils allaient annoncer. Bon, donc c'était parfait. Après, on peut dire, oui, mais il y a des petits détails. On va voir après sur ce qui n'a pas été annoncé et ce qui aurait peut-être dû. Mais en tout cas, c'était exactement ce qu'il fallait, avec même des surprises. Parce que franchement, ce n'est pas dans cet ordre-là qu'on attendait la sortie des processeurs. Hein. On en a parlé dans la quotidienne. Apple a pris un peu tout le monde à contre-pied, puisqu'ils ont commencé par annoncer des produits pro et super pro. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ça veut dire qu'ils maîtrisent tellement maintenant les processeurs qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est génial. Ouais.
Sur les annonces sur les Mac, Gilles, est-ce que tu as été agréablement surpris au moment de la keynote, en tout cas?
Oui, 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 très agréablement surpris. Alors, pour compléter ce que dit Ellie, s'ils mettent des produits pro sur un créneau qui se vend bien, mais pas tant que ça, c'est parce que le volume de puces M3 est limité.
Bien sûr.
Et donc, du coup, c'est pour ça que j'attendais, moi, je me suis planté dans les grandes largeurs. J'attendais de l'iMac M2 et puis finalement c'est du M3 pour des raisons de disponibilité. Là, il continue à absorber l'intégralité de la production de TSMC et du coup, on a des trucs qui font, qui mettent des étoiles dans les yeux et comme dit Ali, voilà, bon, prenez mon argent, taisez-vous, prenez mon argent.
Ouais.
C'est ça.
Fred Crassa, toi, ton sentiment sur les produits, avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que c'était la bonne surprise ou est-ce que c'était finalement en ligne avec ce que tu attendais?
Alors, la dernière fois avec Ellie, ce qu'on avait dit, c'est qu'effectivement, au niveau du 3 nano, contrairement à ce que disait Mac Hurman, je vous rappelle, au printemps, on était en ligne pour dire que le 3 nano allait être inauguré avec la 17 de l'iPhone, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe. Et de mémoire, avec Ellie, on était aussi d'accord sur un deuxième truc, c'est que si TSMC a un rendement suffisant, puisqu'ils ouais. avaient quand même 6 mois de retard, s'ils avaient un rendement suffisant, ils pouvaient effectivement sortir des M3 plutôt professionnels, évidemment, plutôt que MacBook Air, c'est les volumes énormes, parce que ça doit être 70% des ventes de Mac, hein, donc c'est pas le même nombre de puces. Mais ils pouvaient effectivement sortir les M3 avant la fin de l'année si les rendements étaient bons. Donc ça veut dire, quand on a vu les rumeurs et puis la keynote, on savait que ça allait être des Mac, hein, puisqu'il y avait le petit logo du Finder. Ouais. Mais ça veut dire que TSMC arrive maintenant quand même à gérer sa production relativement bien. Et Apple a pu sortir ses puces avant. Elles étaient prêtes il y a longtemps. Je pense qu'Apple, maintenant on le sait, Apple devait être prêt depuis un petit moment. Sûrement, ils ont finalisé au printemps les puces, mais TSMC n'était pas prêt au niveau du 3 nano. Donc, eux, ils sont déjà passés sur le M4. Ça, c'est sûr, avec TSMC. Ben, les équipes de Johnny Srouchi, ça y est. Hein. Il faut se dire qu'il y a 6 mois, ils ont fini le design. Hein. Il y a minimum 6 mois, ils ont fini le design de ces puces. Hein. Puisqu'après, vous savez, on design des puces par rapport à des spécifications techniques de production. Et puis après, il y a 3 à 6 mois de tests. 3 mois, c'est même envie. C'est très court, mais au moins 6 mois de test avant de lancer une production. Donc, ça veut dire que ces gens-là, les équipes, là, on a vu Johnny Srouchi, lui, il travaille déjà sur les designs du M4 et qu'on sort. Mais ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. TSMC est pas mal. Ils ont le super client pour le faire. La concurrence est en train de s'organiser là avec Intel et puis les autres. Et comme disait Gilles, ils vont pas attendre, quoi. Et voilà, ils attendent pas. Donc, ils sont en capacité de le sortir. Moi, ce qui m'étonnait, c'était l'iMac, parce que l'iMac est quand même un produit grand public. Donc, je pensais qu'il pouvait faire un M2. Alors, ça aurait été un peu tordu en annonçant les 3 nanos. Donc, moi, personnellement, je pensais qu'ils allaient le faire à la rentrée, qu'ils allaient le faire soit cet été, soit à la rentrée, l'iMac M2. Mais comme je pense qu'ils veulent vraiment vendre du display 24,7 pouces, du Mac mini... et pas tellement l'iMac, je pense qu'ils ont décidé de pas le sortir et donc là ils le sortent, ils en profitent pour lancer le M3 avec l'iMac et c'est peut-être une bonne idée pour les fêtes de Noël parce que c'est un iMac familial qui est relativement abordable. Et donc du coup, j'étais plutôt bien, j'étais ça me plaît quoi, ce que j'ai vu ça me plaît. Ça ouais.
Sur le fait que l'iMac ait été au rendez-vous, Ellie, est-ce que c'est une bonne surprise? Parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Hein.
Oui, c'est enfin il est là, parce que je veux dire, c'était le petit mal-aimé de la famille, alors que c'est un très beau produit qui se vend bien. Et quand je dis mal-aimé, c'est simplement parce qu'il était resté lui en M1, hein, qu'il n'avait pas suivi ses frères en passant par le M2 et qu'on sort. Donc, c'est très bien qu'il soit sorti. Et effectivement, comme ont dit mes camarades, l'iMac n'a pas les volumes de vente d'un MacBook Air, etc. Donc, il rentrait, il pouvait servir à déjà expliquer que la gamme de produits existe. Apple aurait eu quand même un peu de mal à ne sortir que du M3 Pro et M3 Max. Et les gens, ils auraient dit, mais M3, mais il est où le M3? Pourquoi il n'est pas sorti, lui? Donc bah, là, oui, ils ont le justificatif. Si, le M3 est là, ne vous inquiétez pas, on vous le présente et tout. Il va se vendre avec l'iMac, il va se vendre à un certain nombre d'unités. Et il va préparer, bien entendu, le terrain pour 2024, donc premier trimestre probablement calendaire, pour qu'on voit arriver, peut-être à Pâques, peut-être un peu avant, les MacBook Air qui seront basés sur le M3. Hein, donc, et peut-être même qu'on aura une bonne surprise sur un modèle haut de gamme dans le Mac Mini ou dans le 15 pouces, qui lui pourrait avoir un M3 et un M3 Pro. Je ne dis pas un Max, mais on pourrait décliner une famille d'ordinateurs d'entrée de gamme où le Mac Mini et le 15 pouces pourraient avoir le petit bonus du processeur qui va bien. Mais ça, c'est des pures spéculations hein, de ma part. Mais en tout cas, l'iMac, il fallait qu'il y ait un produit M3, donc c'était le bon produit.
Ouais. Fred, sur la présence de l'iMac à l'événement de lundi soir, c'était aussi une surprise pour toi ?
Ouais, c'était un petit peu une surprise parce que je me demandais, ce bon, ça me gênait un petit peu qu'il y ait un bon. Mais en même temps, et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas d'iMac, c'est quand même 2020, hein, donc la puce M1, elle est sortie en 2020, je sais pas si vous vous rendez compte, on arrive en 2024. Donc ils rattrapent le retard et puis il fallait qu'ils aient quelque chose quand même à sortir pour les fêtes de nouveau. De familial, qui ne soit pas dans des énormes volumes, comme dit, ça c'est important, le côté industriel, hein, Apple peut faire tout ce qu'il veut au niveau marketing, etc., mais si les usines ne sortent pas les puces, on l'a vu avec les voitures pendant la pandémie, après la pandémie, ben voilà, vous avez des voitures sur le parking, hein. Ouais. Donc ça, Apple, bien sûr, et puis Tim Cook, vous le connaissez, hein, c'est un bon logisticien, il sait gérer la chaîne d'approvisionnement, il est rompu à ça, donc on ne va pas lui raconter à Tim, mais en fait, c'est un bon compromis. Le seul truc, c'est que j'avais pensé qu'il le déclinerait, qu'il ferait l'effort de le décliner avec une version pro, avec une version 27 pouces, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire un 27 pouces, ça aurait été bien. Sauf la seule raison, c'est qu'on revient toujours, on a un écran display 27 pouces, il faut lui donner sa chance. Et il y a des Mac mini en version pro, il y a des Mac Studio, et que c'est vrai que ça phagocyte un petit peu ce 27 pouces qu'on connaissait historiquement. Avec Intel.
Et puis on espère que ce sera plus du 30 ou du 32 hein, pour la version grand écran de l'iMac.
Alors, ça sera pas cette version de la puce. À mon sens, on est sur une version intermédiaire dite N3B. Et dans 6 mois, deuxième semestre 2024. Va sortir une version améliorée dite N3E, optimisée avec des accès beaucoup plus rapides. Et c'est ce qu'attendent les concurrents d'Apple, Qualcomm, qui commencent à communiquer beaucoup, Intel, etc., Nvidia. Et il est fort probable que c'est à ce moment-là que Apple sorte les versions Pro de ces Mac de bureau et réexplique à tout ce beau monde comment est-ce qu'il faut faire des puces et comment ça se dessine un ordinateur.
Ouais, bon, on va revenir hein, sur les processeurs et sur peut-être l'évolution, la génération d'après tout à l'heure avec toi Fred notamment. Peut-être que maintenant on va passer du côté obscur de la force puisque vous avez évidemment découvert ces nouveaux MacBook Pro et ce nouvel iMac depuis lundi. Voilà pour ce qu'on a ressenti au moment de la keynote ou en tout cas quand on a regardé le stream ou le replay pour la première fois. Depuis lundi soir, donc ça fait maintenant presque 48 heures, on a appris un certain nombre de choses qui n'ont pas été précisées pendant la keynote, on n'a pas eu que des bonnes surprises, Élie.
Oh, il a manqué des petites choses. On a eu des toutes petites désillusions, mais bon.
Alors lesquelles ? Qu'est-ce que tu retiens, toi, dans les petites fourberies d'Apple, quand même ? Il y en a toujours, hein.
Oui, bon, après, ils vont t'expliquer que par rapport à ce qu'ils ont annoncé, ce n'était pas le plus important. Mais je n'ai pas compris qu'ils n'aient pas profité de l'occasion, pour, en tout cas avec l'iMac, pour annoncer un clavier, un trackpad et une souris USB-C et boucler la boucle de la connectique. Parce que ce n'est pas logique d'avoir un iMac avec un M3 et un connecteur Lightning. Bon, ils ont peut-être un stock de câbles, mais c'était pas très, très logique. C'est une petite désillusion. Après, ils vont dire que peut-être qu'ils gardent ça pour le sortir avec les Mac Studio, avec les Mac Pro et avec ce que moi j'appelle l'iMac Studio, puisqu'on parlait tout à l'heure du 32 pouces. Je pense qu'Apple va laisser le 24 pouces comme un ordinateur familial d'entrée de gamme, et déjà avec un M3, ça commence à être du très très bel entrée de gamme, et garder ce 30 ou 32 pouces comme un produit professionnel venant compléter la gamme des Mac Studio. Moi, un iMac Studio, ça fait longtemps que je le dis, mais ça me plairait bien. Et là, il pourrait justifier d'avoir les claviers USB-C, etc. Bon, ça, c'est la première chose. Après, il faudrait qu'on rentre un peu en détail dans les machines.
Vas-y.
Bon, alors, c'est que certaines configurations sont pas très logiques. Même si on a l'habitude avec Apple, c'est vrai que l'iMac, la config d'entrée de gamme, nous laisse un tout petit peu sur notre faim. Ils auraient pu faire un truc.
Mais c'était déjà le cas avec le M1. On avait toujours dit ne prenez pas l'entrée de gamme. Hein.
C'est pour ça que j'ai dit qu'on a l'habitude avec. Ouais, le premier modèle est toujours un tout petit peu déçu.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on n'a pas avec l'entrée de gamme en iMac qu'on a à partir du modèle intermédiaire ?
Oh, ben, d'abord, bon, la puce est un peu plus puissante. On a aussi la prise Ethernet qui est à côté, donc qui fait partie de... Comme dans la gamme M1, ça, vraiment, ils n'ont pas changé. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie, mes camarades ? Qu'est-ce que j'ai oublié qu'il y a de différent entre le modèle, Gilles, si tu te rappelles, ou Fred ?
Il n'y a pas de port USB-A. Il n'y a pas de port USB-A.
Il y a deux ports USB-A en moins, effectivement, qui sont sur les deux autres modèles.
C'est aberrant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça coûte ? Ça leur coûte même à la limite plus cher d'avoir une tôle arrière différente de la tôle des modèles mieux dotés. Il n'y a pas d'USB-A, il faut... Enfin, je ne comprends pas ce truc.
Je vais être précis parce que l'entrée de gamme est à 1599 € en France. Le modèle intermédiaire est à 1829 €. Donc, il y a 230 € d'écart. Et donc, si vous voulez payer 230 € de moins, vous perdez donc les deux ports USB 3. Vous perdez l'Ethernet gigabit.
Oui.
Vous avez un processeur avec deux cœurs GPU de moins. Oui. Et vous n'avez pas de Touch ID sur le clavier.
C'est ça. C'est comme
ça
avant.
Ça fait beaucoup pour 230 € quand même.
Ouais.
Mais c'est comme sur le modèle M1 finalement.
Exactement.
Ouais.
Donc ça c'est et après sur les si on regarde les portables, mais là c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment plusieurs configurations et je pense qu'on pourra expliquer. Je pense pas que ça soit volontaire, mais ça doit être logique, c'est par rapport à la conception des puces. Quand tu commences à configurer un 14 ou un 16 pouces, il y a des configs auxquelles tu n'accèdes pas. Tu ne peux pas avoir 48 Go de RAM, sauf si tu passes dans une configuration max, mais ça doit être lié au processeur. Ce n'est pas cohérent au niveau des versions de RAM unifiées qui sont livrées dans la gamme des MacBook Pro.
Peut-être cohérent pour Fred ?
C'est cohérent pour moi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison. On pourrait avoir toutes les options, puisque vous savez, il y a du binning. Donc le binning, c'est quand on a des puces qui sortent de production, elles sont testées sur le gros wafer, on teste toutes les puces et puis, il y a des petits défauts et des fois, il y a des cartes qui sautent. Donc plutôt que de les jeter, on se retrouve avec des configurations avec un peu moins de GPU ou un peu moins de CPU. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Intel faisait ça, etc. Même donc ils jouaient même sur la fréquence.
Du coup, c'est les processeurs qui partent sur l'entrée de gamme, par exemple.
Ouais, tout à fait. Ouais, ils arrivent sur l'entrée de gamme et ils ont. Et vous avez des prix intéressants parce que c'est vrai que des fois, le binning sur le M3 Pro ou le M3, des fois, c'est juste qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Bon, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que quand vous avez ces erreurs de matériaux à l'intérieur, ça peut aussi taper les interfaces mémoire. Ça peut aussi taper autre chose que les cœurs. Et quand ça tape les interfaces mémoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout à fait utiliser toute la mémoire que vous auriez pu. Et là, c'est en fait, on voit arriver une deuxième, optimisation du binning, c'est-à-dire qu'ils vont recycler un peu plus de puces qui avant ne passaient pas, où on avait effectivement moins de cœurs, mais on n'avait pas de problème sur les mémoires. Là, ça rentre dans des choses un peu plus compliquées. Et du coup, je pense que c'est lié au fait que le rendement du 3 nanomètres n'est pas aussi bon que celui qu'on avait avant en 5 nanos, qui est excellent. Hein. On était autour de 90-95% de puces qui sortaient valides. Là, on parle de 50-60-70% maximum. Et 70, ça serait un bon chiffre. Donc là, ils sont en train de faire un binning un peu plus prononcé. Et du coup, c'est pas éligible à un certain nombre d'options. Et c'est pour ça qu'on voit arriver des configs qu'on ne peut pas choisir, voilà, en termes de mémoire.
Après, on peut se dire que, comme souvent, est-ce que ça a un sens aujourd'hui, presque en 2024, de sortir deux modèles avec peu de mémoire? 8 gigas, 8 gigas, c'est très peu. Tous les analystes l'ont dit. Pourquoi 8 gigas? On va jusqu'à 128. Hein, donc.
Alors, on va bien distinguer les Mac. Hein, dans le cas de l'iMac, ils sont tous en 8 gigas par défaut. Hein.
Oui, oui.
Même entre guillemets, le modèle le plus cher en configuration standard, qui est à 2059 €. La seule différence par rapport au modèle précédent, c'est qu'on passe de 256 à 512 gigas de stockage. Mais la mémoire unifiée reste à 8 gigas. Il va falloir remettre et retaper dans son porte-monaie pour passer à 16 minimum.
Ben oui, parce qu'il considère que l'iMac est vraiment un ordinateur grand public, quoi. Mais bon, 8 gigas, franchement, avec un M3, il est certes très rapide et tout, mais bon, ils auraient pu mettre un tout petit peu plus. Après, je sais pas pourquoi, on passe à 18 au lieu de 16, mais pareil, il doit y avoir une raison logique. Pourquoi 18? C'est une question bizarre. Parce que c'est 18, 36 après. On n'est pas dans l'habituel 8, 16, 24, 32. Non. Pourquoi?
Ouais, ça, c'est les puces. C'est les puces mémoire qu'ils achètent. Alors, elles se retrouvent avec, en fait, elles sont multicouches. C'est pour ça.
Je précise, dans le cas de l'iMac, on est bien sur 8, 16 et 24. En revanche, sur les MacBook Pro, on n'est pas sur des multiples de 8. Alors, c'est pourquoi ça? Parce que le MacBook Pro M3 n'est pas en 8, 16, 24, alors que l'iMac M3 est en 8, 16, 24. Fred, aide-nous à comprendre.
En fait, c'est souvent lié aux fournisseurs de mémoire, hein, puisque Apple, c'est pas TSMC et c'est pas Apple qui fabrique les mémoires. Enfin, TSMC peut les fabriquer, mais en tout cas, c'est des fournisseurs type Samsung, Inix. Il y a trois grands fournisseurs de mémoire. Et puis, en fonction du fournisseur, du prix, des volumes disponibles, je pense que Apple il fait sa tambouille un petit peu.
Mais on est sorti du. Fred, j'ai dit une bêtise que je vérifie en même temps que tu parlais. En fait, le MacBook Pro M3 est bien en 8, 16, 24. Ce sont les M3 Pro et M3 Pro. Max qui sont sur des mémoires avec des nombres de gigas différents. On passe de 18 à 36 et à 48 et à 64, etc.
Voilà, c'est parce que
le M3 normal qui est dans le 14 pouces, en fait, n'est jamais que le 13 pouces agrandi avec un écran plus grand et sans la touch bar. C'est la même. Je crois que c'est un Omtec qui a
M3 quand même.
Avec un M3, mais c'est la même technologie. Donc, ils gardent le même truc.
Tu oses dire que le nouveau MacBook Pro 14 pouces M3 est plus proche de l'ancien 13 pouces que du 14 pouces M1, c'est ça?
Ils ont gardé le même design et voilà, donc très, très bien. Pourquoi il y a...
Non, mais j'appelle ça une arnaque. Alors, j'appelle ça une arnaque.
Non,
moi,
ils n'ont pas changé le design et... Et je trouve ça très bien. Il est
mais non, mais justement, je suis pas d'accord avec toi. Écoute, je t'interromps parce que franchement, ce qui était extrêmement rassurant avec la gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces jusqu'à maintenant, c'est que le 14 et le 16 étaient rigoureusement identiques. La seule différence, c'était l'écran. Et je trouvais ça très bien. Ouais, mais... Ellie.
Et oui, je voulais finir. En fait, je te passe la parole juste après. C'est que comme il y a la disparition du MacBook Pro 13, parce que ils l'ont pas dit pendant la keynote, mais on a eu le communiqué tout de suite après, il est sorti de la gamme. Ouais. Maintenant, il y a une différence entre le M3 qui reste un processeur pour Apple entre guillemets d'entrée de gamme, parce que c'est celui qu'on trouve dans l'iMac avec cette configuration limitée, et c'est celui qu'on trouvera probablement dans le MacBook Air. Et à côté, il y a la gamme Pro, mais la vraie Pro, même si là, ils l'ont appelée Pro aussi, qui, elle, change de couleur avec le nouveau noir sidéral, qui n'est pas du tout disponible dans l'entrée de gamme, et qui, du coup, change de configuration mémoire avec les processeurs Pro et Max. Donc, tel que je le vois, moi, ayant la liste sous les yeux, c'est que le M3 pour Apple, c'est grand public, alors que le M3 Pro et le M3 Max, c'est professionnel. Mais alors, pourquoi l'avoir appelé MacBook Pro? C'est parce que c'est un 14 pouces et qui remplace le regretté, on va tous le regretter beaucoup, MacBook Pro 13 qui va tellement nous manquer.
Pas du tout. Gilles, on te repasse la main parce que effectivement, je t'ai interrompu, excuse-moi, mais il fallait.
Voilà. Non, pourquoi il y a un tel beaming si... agressif, c'est toujours une question de volume. Les accords de TSMC et d'Apple faisaient que, au lieu d'acheter les wafers, les galettes et de les acheter dans leur ensemble et en prenant les pertes de son côté, comme il prenait tout le volume et tous les risques, Apple ne payait pas les puces défectueuses. Mais ils ont tellement besoin de volume parce que Le yield, voilà, très bien.
Ouais, le yield.
Ils ont tellement besoin de puces en volume qu'ils vont recycler celles qui ne marchent pas et qui éventuellement seraient parties au rebut. Donc, on est dans une sorte de légume moche avec ces puces qui ne partent pas au rebut.
Fred, pour avoir une vue très claire de cette nouvelle gamme MacBook Pro,
ouais.
J'ai l'impression, avec le recul de 48 heures depuis la keynote, qu'il y a d'abord le MacBook Pro 14 pouces M3 qui est presque un portable grand public.
Oui. Est-ce qu'il est ventilé, Benjamin? Parce que souvent, ce qui faisait la différence entre le pro et le non-pro, c'était la ventilation. Il y en avait un qui durait plus longtemps, qui était ventilé et qui faisait que la performance, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disait Tim Bié, la performance va être étalée vers le haut dans le temps, alors que le M2 ou le M1, lui, par contre, n'était pas ventilé et du coup, il pouvait monter très très haut, mais pas trop longtemps, alors que voilà,
j'ai cru comprendre pendant la keynote qu'à un moment, ça a été mentionné le refroidissement interne. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de ventilateur sur le modèle M3. Mais...
Et voilà, et c'est ce que je cherche. Et c'est pas facile de trouver une info qui n'existe pas. Parce
donc je reprends juste ma distinction dans la gamme. Donc le 14 pouces M3, donc on va dire quasiment grand public.
Ouais.
Il est quand même à, je vais pas dire de bêtises, parce que j'ai pas envie de me tromper de modèle, mais il est à 1999 €, c'est ça, Ellie?
Lequel?
Le 14 pouces M3.
Ouais.
Ouais,
oui.
1999 €. Bon. Ensuite, on passe au M3 Pro, qui me semblait assez attirant lundi soir, mais j'ai l'impression qu'on a découvert des petites choses sur le M3 Pro qui le rendent un petit peu moins désirable. Et tu vas peut-être nous en parler. Alors, soit maintenant, soit tout à l'heure, je ne sais pas, Fred, ce que tu préfères. Et puis, il y a évidemment le MacBook Pro M3 Max qui, lui, il a tout pour lui, mais il coûte juste deux fois plus cher que MacBook Pro 14 M3. Voilà. Puisqu'on passe de 2000 à 4000, quoi.
À 4000, ouais. Et il y a l'intermédiaire à 2999 qui a l'air bien parce qu'il y a 18 gigas de mémoire, il y a un tera, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes aussi, c'est que la mémoire, enfin le stockage reste quand même cher chez Apple par rapport à d'autres, et que soit on prend quelque chose en 512 gigas, ce qui pour une machine pro c'est quand même très peu, soit on passe au tera et on paye le prix. Hein. Donc,
ouais. Alors, parmi les petites, pas fourberies, mais quand même, deux ports Thunderbolt 4 seulement sur le MacBook Pro 14 pouces M3. Mais pourquoi ? Typiquement, c'est une distinction qu'on n'avait pas sur, sur la gamme précédente. Ils avaient tous trois ports.
Oui. Mais parce que là, ils le considèrent entrée de gamme. Et entrée de gamme, c'est comme deux ports.
Comme le MacBook Pro 13 pouces. Effectivement. C'est bien un détail qui montre que pour Apple, c'est le nouveau MacBook Pro 13 pouces, mais qui passe au 14, en fait. À peu de choses près.
Bon, tu sais, Benjamin, ouais. avec les histoires d'options, je pense qu'à vouloir, on en avait parlé avec Fabrice souvent, mais avec ces histoires d'options à 230, 240 euros, je ne sais plus où on en est actuellement là, mais... ça pose quand même pas mal de problèmes. Le marketing veut absolument faire payer 230 euros. Ils ont réussi à se fixer sur ça. Ils veulent le garder. Et néanmoins, ça crée des problèmes. À chaque fois qu'on met 8 gigas, à chaque fois... Donc, ils ont baissé les prix sur les iPhones. Bon, c'est des volumes importants parce qu'ils ont donné des choses, de la mémoire, plus de mémoire, etc. Parce que ça tenait pas. Mais là, sur les Mac, on sent que cette politique, au bout d'un moment, dès qu'on touche à un truc, ça devient très, très compliqué de choisir les Mac. Et ça se confirme encore cette année. Et malheureusement, on pourrait simplifier, mais ça voudrait dire peut-être pour le marketing des pertes de vente d'options, etc. Et puis, ils ont pas trop envie. Donc, on a une lecture qui va être compliquée. Ouais.
Ouais.
Il va être compliqué de choisir.
En fait, si on ne passe pas en CTO, il y a quand même 5 configs de MacBook Pro 14, 4 configs de MacBook Pro 16. Ça fait quelque chose de complet, ça fait aussi du stock à avoir, évidemment, parce que ça, c'est des configs de base. Et si on commence à faire des CTO, alors là, ça devient très, très compliqué. Là, on peut faire un nombre considérable de configurations.
Ouais. Le 16 pouces, alors selon les modèles, sur l'entrée de gamme, enfin sur le M3 Pro...
Oui, déjà, il n'y a plus de M3. Il n'y a que des Pro ou du Max. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Si on veut un 16 pouces, c'est 500 euros de plus.
Oui, mais c'est une machine Pro. Et on a droit au noir sidéral.
Oui, enfin, non, mais 500 euros de plus que le même en 14, c'est ça que je veux dire.
Oui. C'est l'écran.
Ah bah oui, mais ça fait cher quand même la différence, non ?
L'écran.
C'est la seule chose, c'est la seule chose qui change. Hein. Ouais.
Oui.
Ouais.
Ah ouais. Oui, c'est... Ouais, ouais. Oui.
Bon, non, mais je dis ça comme ça. En revanche, c'est vrai que si on est sur le modèle le plus haut de gamme, donc sur le M3 Max, là, le passage du 14 au 16, ça n'est plus 500 euros de plus, mais si je dis pas de bêtises, et j'espère ne pas dire de bêtises, parce que j'arrive pas à retrouver ma page. Si, ça y est, j'y suis. En 16, il n'y a que 250 euros d'écart. On est à 3999 en 14 et à 4249 en 16.
Ah non, le plus gros des 16 pouces est à 4849.
Ah oui, mais le moins cher des 16 pouces en M3 Max, il est à 4249 alors que en 14 pouces, on est à 3999. Donc il n'y a que 250 euros d'écart pour passer de 14 à 16 pouces, c'est ça que je veux dire.
Juste un truc, j'ai regardé le 14 pouces.
Ouais.
Le 14 pouces, effectivement, il a 18 gigas de RAM et 512 de disque, et il est bien à 2500.
Quand tu parles du M3 16, Pro, là.
Ouais, du M3 Pro, ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a deux 14. Hein, voilà. Ouais. C'était pratique, en fait, hein, d'avoir un 13. mais tu gagnes autre chose. Tu gardes déjà sur le 14, le M3 Pro en 14 pouces, tu avais un chargeur à 70 watts qui va passer à 140. Tu vas aussi avoir un CPU qui va passer de 11 cœurs à 12 cœurs. mais c'est pas du tout les mêmes cœurs. Attention, entre ça, enfin c'est pas du tout les mêmes cœurs. C'est les cœurs performance, donc on gagne un cœur performance en plus et on passe le GPU et de 14 cœurs. Donc il y a un binning hein, sur la version non pro, sur la version 14 et en version 16 pouces, il est à 18, c'est-à-dire il est au maximum. Donc il y a l'écran. Mais on a plus de puissance GPU, on a plus de puissance CPU et on a un chargeur aussi plus rapide. Donc, c'est ça qui fait 500 euros. C'est pas juste l'écran et la taille. Ouais. Il y a, voilà. Donc, les configs, comment dire, d'entrée de gamme, elles sont un peu plus agressives pour le 14 pouces que pour le 16. Le 16, ils ont pris soin de mettre une puce qui n'a pas de binning, en fait, sur le 16 pouces.
D'accord, intéressant.
Ouais, alors, voilà.
C'est quoi cette histoire de chargeur? Parce que je vois que sur le 14 pouces, en M3 Pro, selon, il y a deux versions. Et, et ces deux versions ne sont pas livrées avec le même chargeur. Non, celui à 2499 est avec un 70 watts et celui à 2999 est avec un 96 watts.
Absolument.
Ouais. Sachant que le 16 pouces, lui, est en 140 watts. Donc, il y a trois puissances de chargeurs différentes sur la gamme.
Ouais.
Et encore, j'ai pas regardé le 14 pouces M3. C'est aussi du 70 watts. Okay.
70,
Enfin, il y a quand même trois puissances différentes.
Ouais. Ouais.
Ça aussi, c'est nouveau, c'est non? C'est quoi ce 96 watts? Non, mais...
96 watts, c'était le standard. Le 140, c'est le ultra rapide qui charge très vite.
Et 70, c'est pour les pauvres, c'est ça? Attends, mais sérieusement.
Ouais.
Non, mais ça, c'est de la pingrerie. Gilles, dis quelque chose, s'il te plaît.
Honnêtement, j'en sais rien. 70 watts, il me semble que c'est le standard pour la plèbe sur PC. Où les constructeurs de PC avaient refusé que la puissance qui passait par ce port puisse monter jusqu'à 90 ou 100, comme le demandait Apple, ce qui a conduit au développement du Lightning, en fait. Mais là, pourquoi d'un modèle à l'autre, on passe de 70 à 90 et de 96 à 140, est-ce que les cellules des batteries sont différentes? Ça, on pourra le savoir que quand les machines seront désossées.
Ouais.
Alors, peut-être qu'il ne faut pas trop s'avancer. J'en sais rien.
Ouais, c'est quand même étonnant.
En tout cas, tous les 16 pouces sont en 140 watts. Donc, au moins, on ne se pose pas de question. Oui. Si on achète un 16 pouces, c'est bon.
Ouais, sur le 16 pouces, c'est bon. Quoi d'autre comme petite découverte dans un deuxième temps sur ces machines? Est-ce que vous
les
avez...
débits.
Ouais.
Les débits de la RAM, quand on regarde les configurations, on se rend compte que le débit des M3 Pro n'est plus à 200 gigas octets secondes. Alors, pour rappel, avant, on avait 100 pour les M2. On avait 200, le double, pour le M2 Pro. C'était pareil pour les M1. Mmh. Et puis, on avait 400 gigaoctets. Et donc, ça, c'est important parce que c'est la RAM, vous savez, unifiée. Donc, le CPU, le GPU, tout le monde y accède. Donc, effectivement, plus un processeur est gros, plus les débits doivent être importants. Et bien là, sur la version Pro, le M3 Pro, on passe de 200 à 150.
Ah.
On a perdu un petit peu.
Mais pourquoi?
Alors, peut-être qu'il n'y avait pas autant. Il n'y avait peut-être pas autant besoin, mais c'est surtout que la puce, on le verra après, elle a été revue. Et comme elle a été revue drastiquement, puisque ça devient une puce à part entière, comme le M3, qui a été designé à partir du M1, hein, mais qui a été designé vraiment optimisé pour ça, le M3, en fait, Pro, n'est plus une version, tronquée du Max. Ça, on le verra plus tard, mais vous savez, je vous avais, quand j'étais venu, je vous avais dit, le Max, en fait, il a plein de GPU et tout ça, il y a une partie basse qui a été coupée, et ils en ont fait un M2, c'était un M1 Pro, M2 Pro était pareil, c'était une vision, en fait, un peu avec le même design, en fait, le même schéma, il suffisait d'enlever la partie basse et on avait une puce intermédiaire. Et bien là, c'est fini cette année, on le verra plus tard, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu un petit peu en mémoire, donc c'est des puces qui sont moins puissantes, mais elles perdent 50 mégaoctets secondes de débit. Mmh. Et on a aussi,
c'est étonnant, c'est un peu à l'inverse du mouvement général de gains en tous les sens, non ?
Alors c'est un peu étonnant de la part d'Apple, parce qu'on n'était pas habitué à ça et que sur le M1 et le M2, ça n'avait pas bougé. Par contre, par rapport à la concurrence...
Est-ce qu'il l'aurait fait volontairement ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est une limitation physique liée à cette nouvelle génération de composants ?
Alors, c'est une limitation physique de la puce M3 Pro qui a été revue complètement, mais vraiment complètement. Donc, Apple a designé une puce M3, non pas basée sur un Max tronqué, mais sur une vraie puce pour qu'elle soit plus petite. Je vous montrerai ça. Je pense qu'ils voulaient une puce qui ait un meilleur... qui soit plus petite pour qu'elle ait un meilleur rendement. Donc, c'est ce que j'appelle un design de compromis. Mmh. C'est vraiment une puce qui est vraiment un compromis parce que je pense que TSMC sur le 3 nano n'a pas les mêmes niveaux de qualité de production et qu'il fallait absolument pouvoir produire beaucoup plus de M3, même avec les défauts du 3 nanomètre qui sont supérieurs, avec un rendement, le yield qui est plus agressif, enfin qui est moins bon. Il fallait absolument arriver à produire du M3 Pro. Je pense que c'est aussi une machine qui est très vendue. Hein. C'est un truc, tout le monde n'achète pas des Max hein, quand même. Il faut être honnête. Je pense que j'ai pas les chiffres d'Apple, mais je pense qu'on vendra plus de M3 Pro que de M3 Max. Mais du coup, il fallait une puce beaucoup plus petite, beaucoup plus agressive, beaucoup plus optimisée. Et vu que la concurrence, elle est complètement larguée par rapport à ces débits-là, ils sont bien au-dessus de tout ce qui se fait. Ils ont décidé que ça faisait partie des compromis qui n'étaient pas très méchants. Mais ça descend, on descend un petit peu. D'accord. Faut le savoir.
Et le Max, lui, garde la même rapport vitesse ?
Pas tous. Le Max,
il y a plusieurs Max.
Alors, il y a plusieurs Max en fait. Le Max biné, c'est-à-dire que le Max qui est un peu moins fort, celui qu'on voit quand je prends le 14 pouces, je fais le Max. Quand vous prenez la version 14 cœurs CPU avec 30 cœurs GPU,
on va en reparler après. On
en parlera après. Elle descend à 300 gigabits au lieu des 400.
Bon, tu vas nous réexpliquer tout ça juste après, Fred. Peut-être qu'on peut parler d'autres composants là, de ces nouveaux MacBook Pro. Je pense notamment au stockage. On se souvient que sur les machines précédentes, et notamment les MacBook Air, si je ne me trompe pas, Ellie, Apple avait fait le choix de n'utiliser plus qu'une seule barrette, hein, ce qui avait énormément nuit à la vélocité des SSD. Fred, tu as vu passer j'ai vu passer quelque chose, mais j'avoue que j'ai pas imprimé.
Alors ouais, j'ai vu passer quelque chose dans la configuration de base des pros. Apparemment, il montre, je crois que c'est mon compère américain Vadim de la chaîne MaxTech qui en parlait là tout à l'heure sur Twitter. Il y aurait deux puces SSD et puis une.
Ah. Bon.
Voilà. Donc
ça c'est rassurant.
Ouais. Mais avec des pincettes, parce que tant qu'on n'a pas vu les configs en vrai, c'est les images, voilà. Mais a priori, il y aurait deux puces sur les pros, donc on n'aurait pas des débits qui seraient vraiment divisés par deux sur ces machines-là qui sont à 512, je crois, pour la partie pro. D'après les configs que j'ai, si je prends un 14 pouces M3, ils sont tous à 512.
Oui.
Et après, ils passent à 1 Tera. Et sur les M3 pouces, c'est 512 1 Tera. Donc, on a plus de 256, mais on aurait a priori deux puces 256 gigas. Et donc, des débits qui seraient revenus à la normale, en fait. Ouais. Donc, on croise les doigts.
Bah, dans une gamme pro, ils ne peuvent pas se le permettre quelque part, hein. Sinon, pense que tout le monde leur serait tombé dessus. Hein.
Ouais.
Le Wi-Fi, on est en Wi-Fi 6E. Ça, c'est bien. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
Bientôt le Wi-Fi 7. Hein.
Ouais. Ouais, mais déjà le 6E, je pense que c'est bien. C'est au niveau de l'iPhone 15 Pro et Pro Max.
Oui.
Au niveau de l'écran, la caméra FaceTime.
Y a... 1080p.
Voilà. Ouais. L'écran est sur 1000 et 1600 nits en pointe, je crois, toujours. Alors, c'est peut-être un petit peu mieux que sur les modèles précédents, il me semble.
Je crois que c'est pareil.
C'est de pareil tête,
c'est...
Okay.
Je crois que c'est pareil.
6 haut-parleurs.
Oui, comme avant.
Ouais, comme avant. Finalement, les caractéristiques ne changent pas. Les caractéristiques en termes d'entrée-sortie, etc., changent pas. La connectivité ne change pas. Tout ce qui est wireless ne change pas. Quand même, on va dire un mot de cette nouvelle couleur.
Qu'on n'a pas vu, mais ouais. Qu'on attend de voir avec impatience, parce que ce noir sidéral qu'ils ont présenté comme étant la nouvelle couleur de référence, je pense que c'est celle qu'on verra dans les magasins en démonstration. Apple dit qu'elle a été traitée avec un nouveau procédé qui empêche les traces de doigts. Et ça, je veux bien voir, parce qu'on a vu au niveau des MacBook Air M2 quand ils sont arrivés, que la couleur gris sidéral de l'époque marquait énormément, enfin de l'époque, on la voit encore, hein, marquait énormément et les gens se sont portés vers lumière stellaire parce que ça laissait moins de traces de doigts. Alors que là, sur la gamme Pro, ben, ça permet de faire la différence. Mais encore faut-il qu'effectivement, on n'ait pas des traces partout, parce que ça fait, sur une machine professionnelle, pas très, très sérieux. Quand même.
Bien sûr. Gilles, est-ce que tu as autre chose à mettre dans le panier commun sur ces infos qu'on a apprises après coup et peut-être ces mauvaises surprises ?
Que la mémoire utilisée pour le M3 était la même que celle du M2, alors qu'une génération plus rapide était disponible et apparemment en relativement bonne quantité.
Mais plus cher.
Ça fait peut-être plus cher, effectivement.
Je te donne la réponse. Et je suis d'accord avec toi. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ces nouveaux MacBook Pro et de ces nouveaux iMac, dont les couleurs ne changent pas d'ailleurs. Hein. On aurait pu s'attendre à une évolution des couleurs pour les rendre différents, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, on se retrouve dans un instant, toujours avec Élie, Gilles et Fred. Cette fois, on va tout vous dire et apprendre beaucoup de choses sur cette nouvelle gamme de processeurs M3. À tout de suite. On l'attendait pour le début d'année 2024 et Apple nous a surpris lundi soir en annonçant, en officialisant les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max. Fred, c'est la première fois, je crois, hein, qu'Apple officialise trois processeurs d'un seul coup.
Oui, tout à fait, oui, parce que je me rappelle, ils avaient annoncé durant l'été la sortie du M1, hein, c'était Johnny Srouchi qui avait lancé en grande pompe le M1, et après on avait vu arriver le Pro et le Max, et après plus tard aussi au printemps, donc ça c'était à l'automne, et après plus tard au début printemps, on avait eu la version Ultra. Puisque j'avais, avec Vadim, deviné que le Max, il y avait une partie qui était coupée en bas. Donc là, à part l'Ultra, c'est vrai qu'il dévoile pas tout. L'Ultra n'est pas dévoilé, mais ça sera, je pense, pour 2024. Mais c'est vrai que là, on a toute une gamme qui est dévoilée de suite. Ça, c'est sympa parce que ça nous permet de comparer les designs, ça nous permet de voir les choses différemment. Ouais.
Alors, tu as fait un gros travail d'illustration, de pédagogie depuis lundi soir pour nous permettre de bien comprendre ce qui change avec cette nouvelle gamme de processeurs. Écoute, j'ai toutes tes illustres sous la main, donc est-ce que tu veux qu'on s'appuie sur la première d'entre elles pour commencer à comprendre ce qu'on gagne à passer au M3 ?
Voilà, et puis je vais faire en sorte que même si c'est du podcast audio, parce que tu sais que j'écoute iWeek en version audio aussi quand je suis sur mon vélo, notamment la quotidienne, donc je vais essayer de m'adapter, de bien penser à ceux qui n'ont pas les images pour que tout ça soit transparent.
Ok, alors on est parti donc sur cette découverte de la famille M3, Fred. Par quoi on commence ?
Eh bien, on va commencer par le wafer parce qu'ils étaient très contents de présenter un wafer 3 nanomètres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, en fait. C'est un truc de geek, hein. Mais le wafer, c'est cette plaque qui sort des usines de TSMC.
Alors, de gaufrette.
C'est une gaufrette, hein. Voilà. C'est, et en fait, dedans, c'est une plaque circulaire de 30 cm et du coup, de diamètre. Et du coup, à l'intérieur, il y a X puces M3. Et bien sûr, ce que quand il le passe, c'est très rapide, c'est pour faire une animation. Moi, j'ai redécoupé les lignes avec ce qu'il fallait bien, etc., pour voir combien il y avait de puces, en fait, parce qu'on n'a pas la taille, hein. On n'a pas la taille du truc. Donc, comme on n'a pas la taille de la puce, donc ça me permet de calculer qu'en fait, il y avait 415 puces M3 par wafer 3 nanomètres.
Il y en a 415 devant nous, là ? Non, je crois pas.
Ouais.
Il n'y a pas 415.
Il y a 415, ouais.
Ah, moi, je lui fais confiance.
Ah ouais, ouais. En fait, comment on fait, c'est que vous voyez avec les trucs rouges, tout ce qui est extrémité, ben, les puces sont, comme c'est un cercle et que les puces sont carrées, effectivement sur les côtés, il y en a qui sautent. Donc j'ai enlevé toutes les puces qui sont sur le côté qui sont partielles. Celles-là, elles sont pas viables, évidemment, elles sont tronquées. Et puis après, ben, on compte ligne par ligne. Alors tout en haut, je sais pas si vous voyez, mais tout en haut ou en bas, on va commencer par le bas, et ben, tout en bas, il y en a 7. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière ligne en bas, il y en a 7. Alors vous comptez comme ça, ligne par ligne, 7. Et puis après, il y en a 2 à droite, 2 à gauche de plus. Donc on passe à 9. Et puis vous comptez toutes les lignes. Et quand vous faites la somme de tout ça, vous arrivez à 415. Donc il faut vraiment être geek et être en congé pour faire ça, évidemment. Mais c'est une info importante.
Je dois être neuneux parce que moi, j'en vois pas du tout 415.
Parce que sur
la ligne la plus longue, qui est à peu près celle du milieu, j'imagine. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Voilà.
21. Pour en avoir 415. Ah oui, 21 sur 21, t'as raison, ça fait 400 et quelques.
C'est déjà. T'as raison. Ah ben, je les ai comptés.
Je me suis fait avoir, tu vois.
Et oui, je les ai comptés.
J'aurais jamais dit qu'il y en avait 415 devant moi, là. Mais effectivement. Ouais. OK.
Alors, je vous rassure, sur Twitter, je suis le seul à avoir fait ça, évidemment. Donc, ça va plaire aux Américains. Ils vont dire, les Français, il est complètement... il a que ça à faire. Mais bon, c'est passionnant. Alors, pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce qu'en fait, cette puce, même si c'est en 3 nanomètres, c'est la puce mass market. C'est la puce grand public par excellence qui va être le plus produite, etc. Donc là il ne faut pas perdre d'argent dessus. Il y en a un peu moins... Il y a un peu moins de die de puces par wafer que ce qu'on avait avec le M1. Elle a un petit peu grossi quand même. Il faut qu'elle propose un peu plus. On était, pour info, on était autour de 460, 480 sur du 5 nanomètres au départ du M1, évidemment. Donc on a perdu un petit peu. Ça veut dire que ça coûte quand même plus cher. Le 3 nano quand même coûte plus cher à Apple que ce qu'ils faisaient sur le M1. Donc, ils doivent quand même contrôler ça. Ils doivent contrôler. D'accord. Surtout qu'en plus, on a puces de perte. C'est-à-dire que ça, c'est des puces qui sont proposées. Après, on les teste. Et bien sûr, le 3 nano, il y aura plus de dégâts qu'avec du 5 nano. Ça veut dire que... Alors, ça, c'est important. Apple pouvait adopter deux stratégies. Soit passer sur du M3, et avec un rendement qui n'est pas très, très bon, mais symboliquement, c'était les premiers à le faire. Soit ils passaient sur du 4 nano. Parce que le M2, il est toujours gravé en N5P, c'est-à-dire le deuxième niveau du 5 nano, et il y a un troisième niveau du 5 nano qui avait été utilisé l'année dernière pour l'iPhone, qui était le 4 nanomètre. Et c'est vrai que le 4 nanomètre permet de mettre plus de transistors avec un super rendement, puisqu'en gros, c'est du 5 nanomètre amélioré. Et il n'a pas fait. Les concurrents prennent du 4 nanomètre. C'est le cas de Qualcomm là, qui annonce du 4 nanomètres pour ses futures puces pour PC. Mais Apple a préféré du 3. Je pense que le 3 actuel, il n'est pas si loin que ça du 4 nano. Il est bien sûr meilleur, mais avec un rendement moindre dans le coût. Je ne suis pas sûr qu'ils y gagnent tant que ça. Mais ils se préparent pour l'avenir.
Tu es déjà en train de dire que le 3 nanomètre là, du M3 M3 Pro, M3 Max, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux en 3 nanomètres?
Non, c'est vraiment le tout début là. Ouais.
D'accord.
Ils vont l'améliorer. Je pense qu'ils vont l'améliorer en 2024. On devrait voir des gains.
Non, dès le deuxième semestre 2023, il y a une nouvelle génération de 3 nanomètres qui arrive avec une architecture et une quantité de transistors qui est encore plus importante. Et c'est ce que les concurrents d'Apple attendent et misent là-dessus pour essayer de se refaire une santé. Il est vraisemblable que Apple l'utilise pour ses machines les plus puissantes, la gamme Pro de bureau.
Est-ce qu'on entre dans le détail du M3, Fred ?
Ouais, on peut rentrer dans le M3 pour vous montrer un petit peu ce qu'il a, parce qu'ils l'ont projeté. Hein. Ils ont projeté comme ils avaient fait quand ils avaient fait c'était le M1 Pro et le M1 Max. Ils avaient montré les trois puces. Donc, on regarde à l'intérieur, là, effectivement, des puces. Alors, c'est ce que je vous montrais. Là, c'est le M3. Donc, il est un petit peu comme le M2. Il a pas beaucoup changé. Il a 10 GPU. Il a toujours les 4 cœurs, vous voyez en rouge, les 4 cœurs CPU haute performance, hein, c'est ceux qui sont très gros, vous voyez, ils sont assez gros, ils sont en rouge, ils consomment beaucoup, avec la mémoire partagée au milieu que j'ai mis en jaune. Et puis, il a les 4 cœurs efficients que j'ai mis en vert, c'est les petits cœurs, vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, les cœurs efficients, donc c'est bien à mettre, on peut en loger pas mal, mais ça a pas tellement bougé par rapport au M2. On a toujours le... On a sûrement monté les fréquences. Je pense qu'ils ont pu monter les fréquences. Par contre, ce qui a changé pas mal, c'est le cache SLC. C'est le cache qu'on voit au milieu là, qui permet de faire le lien avec la mémoire. Et puis les GPU, CPU, apparemment, ils ont quand même pas mal retravaillé cette partie-là. Donc, il faudra voir les performances quand on active CPU, GPU pour voir si on y a gagné. Ouais. Mais globalement, c'est une adaptation de la 17 Pro, c'est-à-dire surtout les nouveaux GPU qui arrivent avec le ray tracing qui est implémenté, l'upscaling, enfin toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer les jeux et puis aussi l'amélioration du traitement pour la 3D, etc. Et puis un Neural Engine plus rapide. Donc en fait, le 3 nanomètres leur a permis de mettre un peu plus de transistors pour les GPU avec plus de fonctionnalités. Le CPU, je ne suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup. Ouais. Ça va être un peu comme la 17 Pro.
Je me souviens du même schéma pour le M1 et le M2. J'ai l'impression que, effectivement, comme tu le disais, le design est complètement différent. L'organisation sur ce rectangle est complètement différente.
Alors ouais, ils ont dû bouger un petit peu parce qu'ils ont rajouté, là on est à 10 GPU. Combien on avait sur le M2? Je crois qu'on avait pareil. Je vais regarder quand même vite fait.
On avait 8 ou 10, je ne sais plus.
Je vais vous dire. Tac, tac, tac. On avait 10 et 10, voilà. Alors, on a le même nombre de GPU. Par contre, la difficulté ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc là, on est content d'avoir du 3 nanomètres parce que ben, du coup, le GPU, il ne va pas tellement grossir. Mais à l'intérieur, ça va être plus fin, donc on va pouvoir en loger plus. Mais on a un petit peu réorganisé le Neural Engine, mais c'est de la sauce interne. Mais sur le fond, ouais. il a pas beaucoup bougé.
Élie, tu avais une question pour Fred, je crois.
Ouais.
Non, je voulais juste compléter parce que je pense que nos auditeurs ou nos spectateurs vont poser la question forcément. Donc ce M3 qu'on commence maintenant un peu à mieux connaître, est-ce qu'il est plus rapide? Comment est-ce qu'on le compare au M2 ou au M1? Et en fait, Apple a donné la réponse. Donc, en fait, il y a d'ailleurs les premiers Geekbench qui ont été publiés aujourd'hui. Hein, donc, c'est une info toute fraîche. Et ouais. En fait, puisqu'on est sur le M3, le modèle 8 cœurs est en fait 35% plus rapide qu'un M1. Parce que d'abord, il le compare au M1. Ça vient de la keynote Apple. Et 20% plus rapide qu'un M2. C'est pour le mettre en fait en perspective. Et d'ailleurs, sur une partie des comparaisons qu'ils ont fait dans la keynote, ils ont comparé avec une machine Intel. parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'une machine Intel, bien sûr. Donc là, c'est 35% plus rapide qu'un M1 et 20% plus rapide qu'un M2. Et pour le modèle en 10 cœurs, il est 65% plus rapide qu'un M1 et 20% plus rapide qu'un M2. Donc, pareil, puisqu'en fait, ce qui a changé là, c'est, en fait, c'est le GPU, qu'on est passé de 8 cœurs GPU à 10 cœurs GPU. Le nombre de cœurs est le même. Hein. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est en fait la différence entre les deux, c'est le nombre de GPU. On est passé de 8 à 10, ce qui fait qu'il est plus rapide.
Fred, il y a pas mal de gens qui ont remarqué pendant la keynote que Apple avait oublié de comparer le M3 au M2. Il n'y avait que le M1 dans le tableau, en disant que, en supposant que l'écart était pas assez significatif pour que ça donne envie.
Ouais, mais
20% c'est pas énorme, finalement.
C'est pas énorme. Le truc, c'est que pour avoir ces gains de 20% avec une consommation maîtrisée, c'est pas si simple, en fait. En principe, quand vous augmentez comme ça de 20%, vous augmentez pas la consommation de 20%. Vous l'augmentez peut-être de 60-70%. Donc, à chaque fois qu'on gagne 20%, tout en essayant de contenir, d'avoir une autonomie constante, de ne pas réduire l'autonomie, hein, et d'ailleurs, on voit que sur certains modèles, l'autonomie s'améliore, ben c'est pas si simple que ça. Donc,
faut regarder les deux, en fait. Il faut regarder l'augmentation de puissance et aussi l'impact sur la consommation d'énergie, c'est ça?
Eh oui. Et c'est les deux qui c'est le fameux performance par watt. Ben et alors après, c'est vrai qu'on arrive, dans la troisième génération des Apple Silicon. On peut pas demander le même gain que quand on est passé de Intel à Apple Silicon. Vous voyez, là, c'était, on aimerait en fait, on aimerait, mais il y a quand
même. On a bien aimé,
Voilà, il y a quand même des limites. Et même, vous voyez, le 3 nanomètres, il est bien mieux que le 5 nanomètres, mais c'est la première génération et on ne peut pas lui demander de délivrer tous ses apports de suite, immédiatement. Donc, c'est quand même un joli gain. Je pense qu'il y a pas mal de constructeurs comme Intel qui auraient aimé avoir ça. Ce qu'on gagne aussi, c'est... qui va être important, c'est on le voit arriver, alors je ne l'ai pas localisé, mais c'est l'arrivée du décodage AV1, qui est le décodage, qui est le codec utilisé par YouTube. Alors il est dans ce qui est, il est dans la, noyé dans tout ça là, mais l'AV1 c'est un codec, alors c'est uniquement en décodage, hein, on va pas encoder en AV1, mais sur Apple, pour ça on a d'autres codecs, hein, A265 et ProRes, mais c'est ce qui est utilisé par Netflix et par YouTube, et donc du coup on va le voir arriver en hardware dans ces machines là, ce qui fait que l'augmentation de la lecture Netflix, du streaming et de YouTube va consommer moins d'énergie.
Ah oui, très bien. Voilà.
Donc pas ça, mal, c'est plutôt bien. Nouvelle. Et on l'avait déjà sur la 17. Hein. Sur la 17 Pro, ce codec était arrivé. Donc, en décodage aussi. Voilà.
On passe au M3 Pro. Gilles, tu avais peut-être une question.
Non, j'avais une remarque à faire sur le fait qu'il se compare soit au M1, soit au puce Intel. Alors, il s'adresse à leurs clients des générations précédentes, mais surtout... considèrent qu'ils n'ont personne avec qui se comparer pour l'instant. Donc, ils partent d'où ils se comparent, d'où ils sont partis avec le M1 ou avec Intel, c'est-à-dire avec les utilisateurs de PC qui sont toujours sur des puces i7 ou i9. Et Qualcomm a sorti il y a une semaine tout un tas de batchs et en fait, ils se comparent, eux, avec des puces dites pour le M14 ou pour le 14 pouces ou le 16 pouces sur des machines de pro, ils utilisent pour se comparer des Intel de moyenne gamme ou le MacBook Pro 13 pouces de la gamme M2. On est sur des échelles différentes. Et,
c'est du marketing.
C'est du pur marketing, alors que là, avec... avec Apple, ils disent voilà d'où on vient et voilà où on est arrivé.
Bah, en tout cas, pour ceux qui voulaient, sur Twitter, ou X maintenant, les gens n'ont pas tardé. Et il y a des internautes qui ont refait le graphique Apple en rajoutant la comparaison avec les modèles qui manquaient. Hein. Donc, ils ont juste rajouté pour dire, voilà, Apple ne l'a pas dit, mais les voilà. Ouais. Donc on les trouve.
Ouais. On passe au M3 Pro, Fred ?
Ouais. Ouais.
Allez. Alors, on va afficher du coup cette... magnifique illustration, ce,
ouais, différent, ouais,
ce design.
Ouais. Alors, le M3 Pro, par rapport au M2 Pro, le M2 Pro, il était plutôt rectangulaire. Il était rectangulaire et celui-là, en fait, c'est l'inverse. Il est plutôt rectangulaire dans la largeur et là, c'est plutôt dans la hauteur. Donc, là, ça a pas mal changé. On le voit sur la mémoire parce que la mémoire que vous voyez, il y a marqué LPDDR5, les interfaces mémoire. Avant, elles étaient sur les côtés, un peu comme le Max. Hein, elles étaient de chaque côté, à droite et à gauche. Et bien là, elles sont pratiquement sur trois tranches. Et effectivement, on a tous les cœurs en haut. Vous voyez que le cache avec la RAM, il est plus gros que évidemment sur le M3 tout court. On a le Display Engine qui est beaucoup plus large. Hein. Là, ça permet de gérer 4 écrans, hein, évidemment. Donc là, c'est une machine qui permet d'avoir beaucoup plus de connexions d'écran. Et c'est ce qui est promu par Apple. Et puis on a, alors là, c'est pour ça que c'est une puce un petit peu décompromis. On a cette fois-ci une vraie différence avec le Max, c'est-à-dire qu'on a 6 cœurs performance, que vous voyez en rouge, et puis vous avez 6 petits cœurs, alors ça ne prend pas beaucoup de place, hein, vous voyez, 6 petits cœurs économiques, basse consommation.
Mmh. Voilà. C'est deux écrans pour le Pro et 4 pour le Max.
Ouais, absolument. Ouais. Non, c'est... non, c'est deux pour le M3.
Non, voilà. un seul pour le... Attends, en écran externe, hein, je parle.
Écran externe, il faut enlever l'écran interne qui utilise un DisplayPort. Mmh. Donc, quand on a un M3, on a un écran externe parce qu'il n'y a que deux displays. Et puis, quand on arrive sur le Pro, il y a 4. Ça veut dire qu'il y en a un qui est pris pour l'écran et on peut en connecter 2 autres ou 3 autres peut-être...
Attends, mais il y a une distinction parce qu'il y a, pendant la keynote, il parlait d'un modèle qui pouvait gérer 2 écrans externes et l'autre qui pouvait en gérer 4. Donc 4, c'est forcément c'est le Max. Et 2, c'est le Pro alors.
C'est le Pro, c'est ça, oui.
Et donc le M3 gère un seul écran externe ?
Ouais.
C'est ça ?
Oui.
Okay.
Ouais. Okay. Après, ça dépend de la définition qu'on a, mais en 4K, oui.
Ouais, ok. Donc ça, c'est le M3 Pro, ok.
Ouais, et là, vous et voyez un qui truc est qui est particulier voilà. Sur ça.
Ouais.
C'est qu'on a autant de cœurs performance que de cœurs efficients. C'est 6 et 6. C'est ce qui fait dire que, en fait, on a quelque chose, parce que 6 cœurs efficients, ça fait beaucoup pour une machine, professionnelle, parce qu'on se dit, bon, 4 cœurs efficients pour les petites tâches en fond d'écran, etc. Mais ça permet d'avoir une consommation maîtrisée et puis ça va permettre de réduire la taille de la puce. Et ça, on le verra plus tard. Mais c'est ce qui change cette année, c'est que le M3 Pro n'a plus le même nombre de CPU que le Max. Alors qu'avant, ils partageaient le même... vous voyez, ils partageaient le même... la partie CPU était la même. Ce qui changeait, c'était la partie GPU, évidemment. Et puis Media Engine, qui changeait aussi. Mais là, c'est une puce qui est un peu spécifique. Elle a sa propre identité.
Ok. Des questions, les amis, sur le M3 Pro, à Fred ?
Ben non, il est c'est très joli et c'est pour ça qu'il nous a dit que c'était un nouveau processeur et non pas un processeur coupé comme dans la génération précédente, c'est ça ?
Ouais.
Donc là, c'est vraiment un design nouveau.
Ouais, c'est un design nouveau.
Est-ce qu'Apple, sur ce M3 Pro, Fred, a fait des choix un peu décevants ? C'est-à-dire, est-ce qu'Apple a volontairement limité telle ou telle caractéristique pour peut-être créer un écart plus important avec le M3 Max.
Sur la partie CPU, ça c'est vrai. Sur la partie CPU, effectivement, on aurait aimé avoir plus de CPU perf, et là, il faudra aller sur le max. Sur la partie mémoire, je vous l'ai mis en gris en haut, mais on passe de 200 gigaoctets secondes à 153. puisqu'en fait, on a plus une interface en 256 bits, mais on a une interface, alors je compte les blocs d'interface, on est passé de 256 à 192 bits. Donc si la mémoire est la même, etc., on arrive à 153, ce qui correspond au spec que donne Apple sur son site quand on fait la configuration. Donc effectivement, on va gagner grâce aux 3 nano, sûrement avec une montée en fréquence, et puis avec les GPU de nouvelle génération, on a des gains, mais qui vont se retrouver un petit peu réduits par rapport au M2 Pro, parce que la mémoire, les débits mémoire sont rapides. Après, c'est un équilibre, vous savez, donc il faudra voir ce que ça donne dans le résultat. Par contre, la puce, elle est plus compacte. Elle est beaucoup plus compacte, elle est plus petite, donc ça va permettre à Apple d'en produire beaucoup plus, je pense.
Bon, bah, au moins une bonne nouvelle.
Ouais.
Passons au max, alors.
On passe au max. Allez,
oui,
Max. Le max.
Voilà.
Alors, en nombre de transistors, le gain est impressionnant, hein, parce qu'on est passé de 25 à 37 du M3 ou M3 Pro, et là, on passe de 37 à 92 milliards de transistors.
Alors, juste pour corriger, parce que Apple l'a pas dit, on passait de 20 à 25 pour le M3, donc on gagnait quand même 5 milliards de transistors. Par contre, le M3 Pro a moins de transistors que le M2 Pro. Le M2 Pro, pour info, il était à 40 milliards de transistors et là, on est à 37. C'est-à-dire, la puce qu'on a vue avant, il y a moins de transistors. Parce qu'il y a moins d'interface, il y a des choses au niveau mémoire, etc. Donc c'est ça qui est assez surprenant. Le M2 Pro va être plus petit, mais il utilise moins de transistors. Par contre, effectivement, le Max, lui, il explose. Il est à 92, on frôle les 100 milliards de transistors. C'est un monstre. C'est ce qu'on peut faire de plus gros, en fait.
C'est dingue.
Et là, ça, vous voyez en rouge, je vous ai aligné les CPU performance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur la première rangée tout en haut et 4 de plus. Donc on est à 12 CPU performance et vous voyez qu'on n'a que 4. Là, on n'a que 4 en vert, on a 4 petites efficiency core, les puces économiques. Vous voyez Donc là, si vous voulez, par rapport à l'ordre qui était 6-6, là, c'est complètement... Ça n'a rien à voir. Je vous rappelle que sur le M2, la génération des M2 et des M1, c'était pareil. C'était les mêmes... la partie CPU est identique. Là, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Donc là, c'est un mastodonte en termes de calcul CPU. Je pense qu'Apple a vraiment voulu, cette année, dire aux gens qui achètent des Macs, vous allez avoir vraiment une performance CPU qui sera très très différente de ce que vous avez avec le Pro, parce que tu te rappelles, vous rappelez tous, il y avait des tests qui montraient que des fois il valait mieux prendre un Pro si on n'avait pas tellement besoin de GPU. En fait, un Pro faisait aussi bien au niveau calcul CPU. Donc du coup, si on n'a pas vraiment besoin de GPU, par exemple pour la musique et tout ça, franchement, le Max n'était pas vraiment intéressant. Là, par contre, cette année, ça va être très différent. Quelqu'un qui fait de la musique avec beaucoup d'effets, si vraiment il veut avoir de la puissance pure, le Max, lui, il est capable de fournir, parce que c'est 12 contre 6, hein. C'est deux fois plus.
Wow.
Il a deux fois plus de performance que sur un Pro en termes de CPU efficace.
Ouais.
Donc, je prédis qu'on va frôler, l'Ultra. On va frôler le M2 Ultra en termes de résultats. On les a pas encore, mais je pense que alors on pourra pas les tenir peut-être sur la durée parce que l'Ultra il est super bien ventilé. Mais sur des calculs qui sont pas trop intensifs, c'est-à-dire qui durent pas 2-3 heures, je pense qu'on va frôler dans une machine 14 pouces, hein, parce qu'il est disponible sur 14 pouces, on va frôler le M2 Ultra. C'est un truc de malade. Personne fait ça. C'est génial.
Ouais. On va rappeler que le M2 Ultra, c'est deux puces M2 Max ensemble. Hein.
Voilà.
C'est ça.
Mais je rappelle que le M2 Max, il a 12 cœurs. Il a 8 cœurs performance et 4 efficience. Donc, vous passez de 8 à 12.
Oui.
À fond les ballons, donc à voir, mais ça va être pas mal, hein. On va avoir de beaux bench qui vont arriver.
Ouais, super. Donc c'est vraiment le killer processeur, quoi, le M3 Max.
Le killer
au niveau du portefeuille aussi, c'est ça.
En fait, le M3 Max, c'est le processeur le plus, c'est le socle le plus gros qu'on puisse construire tout en étant industriellement réalisable. Donc, ils savent qu'avec une certaine taille, c'est autour de 400 mm², 400, 450 mm², on arrive à faire des puces grand public, entre guillemets, professionnelles, qui après au-delà ça devient compliqué de produire des puces qui ont aucune erreur. Donc ils ont tout mis là-dedans.
Bon, j'ai d'autres graphiques que tu nous as fournis, Fred. Est-ce que tu veux qu'on s'en serve pour expliquer d'autres aspects de cette nouvelle génération de processeurs?
Ouais.
Dis-moi,
Mais tu avais d'autres slides, non, j'appuie. Je crois.
Oui. Alors, j'ai le nouveau design et puis j'ai encore... Il y a deux slides avec, je pense, des sortes de barres.
C'est la famille. Les familles.
Ouais, les familles.
Les familles, ouais.
Ouais, c'est pour expliquer ce qui est en train de se passer chez Apple, là.
Alors, on commence par ça?
Beaucoup vont être perdus. Ouais, on va commencer par ça, ouais.
Alors, dis-moi. M1 et M2?
Ouais.
Allez.
Alors, ça, c'était ce qu'on a toujours connu jusqu'à présent. Vous aviez... Pour le marché grand public, le mass market, où il y avait vraiment beaucoup de puces à faire, c'était le M1 et le M2, c'est-à-dire une puce plutôt carrée, très petite, enfin en tout cas super petite. C'est pour ça que je l'appelais la stratégie petit, c'est magnifique. Small is beautiful en anglais. C'est assez classique, voilà. Donc on fait quelque chose de petit parce que il faut en produire beaucoup, mais on va mettre tout ce qu'il faut avec vraiment. C'est ce que disait Tim Lee. On va équilibrer tout ça pour qu'il y ait juste le nécessaire et trouver la performance. Donc ça n'a pas bougé, mais c'était ce qu'il y avait. Ça, c'était le premier design et c'est pour ça qu'il est sorti en premier. Et après, on a vu arriver, quelques temps après, on a vu arriver la gamme Pro. Mais quand vous preniez le Pro, le Max ou l'Ultra, en fait, il s'agissait tout le temps de la même puce. La puce de référence, si tu le repasses, c'était le M1 ou le M2 Max. Ça, c'était la puce de référence. Alors, si on voulait faire plus gros, on en mettait deux, ça devenait l'Ultra. Mais sur le principe, c'était deux max qu'on avait collés. Et si on voulait faire quelque chose de plus petit, il suffisait, je vous ai mis un ciseau, on coupait la partie basse qui contenait des GPU, un petit peu l'interface mémoire et puis du Media Engine supplémentaire. On enlevait la partie basse, ça faisait un M1 ou un M2 Pro. Donc, en fait, on avait deux gammes, un design mass market et un design professionnel. Et c'était très simple et très, très bien optimisé comme ça. Ça, c'était l'existant. Donc, deux designs.
Ah, du coup, ça, je ne voyais pas du tout comme ça, mais ça a l'air tellement logique.
Et c'était malin pour eux, parce qu'ils n'ont pas construit avec quatre puces, en fait. Ils avaient fait ça. Alors, ils auraient pu le faire sur le M3. Je vous ai remis là le M3 Max. Vous voyez, on aurait pu dire, je vais couper le bas. Je vais avoir comme ça un M3 un shortened, c'est-à-dire un M3 Max écourté, tronqué. Un
raccourci.
Ça aurait pu me servir de base, et c'est pour ça que je vous ai mis les dimensions sont respectées, ça aurait pu me servir de base pour M3 Pro. Et je vous ai mis le M3 Pro tel qu'il est, en fait. Et vous voyez qu'en fait, le M3 Mac, Pro, s'il avait été fait comme l'année dernière, il aurait été 57% plus grand que ce qu'il y a actuellement. Et donc, il aurait été très gros encore. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un M3 Pro, que vous voyez la différence, qui est beaucoup plus petit, plus optimisé, avec des concessions. C'est la puce des compromis. Mais par contre, ça va leur permettre d'en produire plus et, je pense, d'éviter les problèmes de qualité du 3 nanomètres. Mais du coup, on en met plus par plaque. Sur les gaufrettes, il y en a plus. Il y a aussi plus de puces disponibles. Et ça permet de comprendre pourquoi cette stratégie de couper une puce max, en fait, elle marche plus avec le 3 nano. Voilà.
Ouais, d'accord.
Vous voyez ? Et ça, c'est pas dit, effectivement, à la keynote, ils vont pas vous le dire, ça.
Eh oui.
Bah non.
Ouais. Et alors, donc, voilà, je vous ai mis maintenant... la stratégie de design d'Apple, avant il y avait deux, vous rappelez, il y avait deux designs, et bien maintenant on a trois, on se retrouve avec la partie pro design, c'est le M3 Max qui va être sûrement, j'ai regardé, il va être dupliqué en ultra, donc on va avoir une M3 ultra qui va être monstrueux en termes de CPU, ça va être un truc de fou, donc ça sera pour 2024, mais vous voyez, il y a le M3 tout court pour le mass market, et bien on se retrouve avec un intermédiaire, je l'appelais le design design intermédiaire. C'est un design de compromis, mais vraiment, là, ils ont fait un effort pour le contenir, pour pas qu'il soit trop gros. Il est un petit peu plus haut que le M3, mais il est... Mais vous voyez, il a pris 30 ou 40% de la taille du M3, mais il n'a rien à voir avec ce qu'il aurait dû être. Donc ça va être des configurations qu'il va falloir vraiment surveiller pour voir si on perd, si cet exercice qu'a fait Apple, les équipes d'Apple Silicon, il faudra vraiment voir si le M3 Pro délivre vraiment ce qu'il faut aux gens, avec, je le rappelle, 6 cœurs performance et 6 cœurs économique. Est-ce que cette stratégie est payante finalement sur les logiciels, peut-être, hein? Je ne sais pas. Voilà.
Bon, super, Fred. Merci pour ce tour d'horizon des processeurs M3. Élie, je te vois opiner.
Je suis impressionné. Je conseille évidemment à tous nos auditeurs, s'ils le peuvent, même s'ils ont écouté la version audio, de regarder la version vidéo pour voir les slides qui donc va sortir quelques jours après. Parce que là, si vous voulez bien comprendre, il faut regarder les slides. Et là, absolument, vous allez voir à quel point les processeurs Apple, c'est presque des œuvres d'art. Et ils sont pensés avec une certaine logique industrielle. Et ça, on le voit moins si on ne sait pas pourquoi c'est fait comme ça. On passe à côté, effectivement, de l'explication.
Gilles, ton sentiment là sur le design de ces puces?
Non, c'est un truc énorme et ça... je regarde toujours le coup d'après, ça présage bien pour la suite, pour les gammes pro de bureaux qui vont être elles aussi, j'espère, d'une grosse puissance. C'est ce que Fred disait hier soir, on en a un petit peu parlé. Vraiment, on va avoir quelque chose qui va rappeler la concurrence à sa planche à dessin, en fait.
Ouais. Est-ce qu'on va avoir, tu penses, Fred, un M4 donc, qui serait sur le même schéma, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, que le M3, ou est-ce que là, ils arrivent à une sorte de limite, il va falloir réinventer peut-être la manière dont on fait un processeur pour les prochains?
Alors... j'y ai pensé, c'est marrant que tu poses la question, parce que quand je faisais je regardais à la loupe tous ces designs-là, je pense que la structure du M3, tel qu'il est, va tomber. En fait, en mettant un M3 Pro intermédiaire, en fait, en sortant la partie M3 Pro du design du Max, en séparant, faisant un truc très spécifique, je pense qu'ils préparent, ils sont en train de préparer le M4. C'est-à-dire que le M3 petit, tel qu'on le voit, plutôt carré, avec cette logique, elle est finie. Parce qu'on ne pourra pas rester comme ça. Et je pense que le M3 Pro ressemble plus à l'avenir du futur M4. Qui sont en train de tester, c'est-à-dire, vous voyez, on a 100 mégabits d'interface sur le M3, on est à 150 pour le Pro, on n'est pas très loin en fait. Hein. Je pense qu'ils vont, ils sont en train de tester le M3 Pro. C'est, franchement, c'est un processeur qui va être très très important et je pense que il y aura un autre Pro. Peut-être qui sera différent de celui actuellement, mais que le Pro actuel en fait va devenir le truc de base, en fait le standard pour les machines. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait un compromis qui est pas mal du tout avec ça. Après, Élie, est-ce que pour les pros pour les pros ça suffira, je sais pas, on verra.
Élie,
moi, j'avais une question, puisque là, bon, on est en 3 nanomètres et effectivement, avec pas mal de déchets, mais ça, ils vont s'améliorer au fur et à mesure que les techniques de fabrication progressent. Mais le M4, il ne va pas descendre à 2 nanomètres. On ne peut pas changer comme ça tous les ans ou tous les 2 ans, même si on est en progrès constant, parce qu'à un moment donné, ça va être tellement petit qu'on ne saura plus les fabriquer, quoi.
Là actuellement, la stratégie de TSMC, c'est de garder le même type de transistor. Ça s'appelle FinFET. C'est des transistors à ailettes. Donc ça fait comme des sortes de petites ailes, de petites bosses comme ça. Et ils l'ont gardé pour le 3 nano. Pour le 2 nanomètre, ils vont changer vraiment la technologie du transistor. C'est ce qu'essaie de faire Samsung avec son 3 nanomètres. Le 3 nanomètres de Samsung est en retard. Mais par contre, eux, ouais. ils ont misé sur le nouveau transistor qu'on appelle GAA, où là, c'est une autre technologie de couche. Et donc là, on espère que... Mais là, ça ne sera pas avant pas mal de temps.
D'accord, parce que moi, je disais ça comme une boutade, mais ils travaillent vraiment sur du... ils font de la recherche sur du 2 nanomètres.
Ouais, alors le 2 nanomètres, ouais. Mais c'est surtout le changement de transistor, en fait. Pardon, Gilles. C'est surtout le changement de transistor. C'est-à-dire que Samsung et TSMC n'ont pas la même stratégie. TSMC, en gros, est plus à l'aise et s'est dit on va pouvoir garder le transistor actuel et réduire la taille. On a confiance dans notre processus de fabrication. Alors que Samsung a dit nous, on va sauter le pas, on va changer la technologie de transistor et on va passer en 3 nano.
Ah ouais.
Par contre, s'ils y arrivent, ça voudra dire qu'ils maîtrisent le nouveau transistor. Qui est pas ailette, il est sous forme de, au lieu d'avoir des ailettes verticales, lui c'est plutôt horizontal, il met des couches horizontales pour faire passer le courant.
C'est la stratégie habituelle de Samsung, où quand ils sont en retard sur une techno, ils ne cherchent pas à rattraper le retard, ils passent à la technologie suivante. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bouffer tout le monde, en fait.
C'est du marketing aussi, quand on va leur dire « Oui, mais vous n'êtes pas en 3 nanomètres ». Certes, on n'est pas encore en 3 nanomètres, mais nous aurons des transistors horizontaux. Attention.
C'est ça.
Ils sont trop forts.
Bon, voilà pour ce débrief de l'Apple Event de lundi soir. 30 minutes. Nous, on a fait 1h30, si ce n'est un peu plus. Donc, ça va. Je pense qu'on est bien là. On a bien amorti la keynote Scary Fast. Merci beaucoup, Fred, d'être venu dans iWeek, nous expliquer toutes les subtilités de cette famille M3. T'es quand même excité à l'idée de les tester?
Ah oui, moi je suis testé et puis j'ai envie de les tester, j'ai envie de les voir aussi en noir. Et puis je suis hyper excité comme tous sur les benches. Je veux voir les premiers résultats pour voir ce que ça donne, notamment le max. Le max est assez prometteur, mais après il faut. Est-ce qu'on est raisonnable, comme disait Ellie avant l'émission? Est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on se fait plaisir? Voilà.
La bonne question. Gilles, je te la pose parce que je me souviens que tu attendais les M3 pour éventuellement changer de machine. Alors, est-ce que tu as pris une décision?
Non, je vais discuter sérieusement avec Ellie et finir de discuter avec Fred. Mais j'ai une idée. Ce sera sûrement le Pro, pas d'entrée de gamme, pas à 11 cœurs, mais à 12.
Ouais.
Je pense que c'est un bon compromis en 14 pouces. Et je voulais poser la question à Fred. Est-ce que lui aussi va franchir le pas et changer sa machine?
Ben, j'étais un petit peu comme toi. Je pense que oui, parce que moi, j'ai un vieux MacBook. Alors, pour l'instant, j'ai un iMac 27 en Intel. J'ai aussi un portable, mais qui date un peu, toujours en Intel. Par contre, c'est ma femme. Je l'ai fait changer, pas avec du M1. Donc ça, j'ai quand même un M1 à côté. Mais le M3 Pro me tente bien. Mais pas en version, effectivement, binée, mais vraiment la version full, plutôt à l'aise. Voilà. En termes de RAM.
Donc, si je comprends bien, Gilles, parce que je suis allé retourner voir sur apple.com, ce serait la version 12 cœurs CPU et 18 cœurs GPU avec 18 gigas de mémoire unifiée et 1 Tera de stockage, c'est ça?
Oui.
C'est ça, ce qui me permettrait à la fois de remplacer le MacBook Pro de 2017 et puis l'iMac.
Ouais.
De 2011, Intel de 2011, je pense qu'il a bien mérité de la patrie et donc il va faire le jukebox.
Ouais.
Et puis voilà.
Donc tu serais à 2999 €, et tu seras donc l'heureux propriétaire bientôt d'un adaptateur secteur de 96 watts.
Oui, justement, j'en rêvais.
Oui, je me doute.
Et tu vois, moi, j'étais pareil. Moi, j'avais pré-choisi déjà ce modèle-là en Pro à 2999. C'était avant l'émission, parce qu'avec tout ce que j'ai entendu sur le Max, Là, je vais beaucoup, beaucoup réfléchir beaucoup, en disant beaucoup. Est-ce que je vais sortir 1000 euros de plus ?
Bah oui, c'est la grande question. Élie, juste question quand même vers toi avant qu'on se quitte sur le niveau d'attente de ces nouveaux Mac, l'iMac évidemment, mais les MacBook Pro. Depuis deux jours, quel est le retour que tu as des clients qui passent vous voir ?
Pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul. Il y a un peu de curiosité, mais je n'ai pas eu le temps, en fait, depuis l'annonce, de voir un tout petit peu quel est le niveau de réservation ou de précommande, puisqu'on a le droit de prendre des commandes immédiatement. On n'a plus le délai d'attente habituel et que les premiers produits seront livrés donc mardi. Ce qui veut dire que nous-mêmes, on a déjà dû passer des commandes chez les grossistes. Donc, je vais me renseigner et puis promis, on en parle probablement dans une quotidienne. Prochainement, je vous donnerai un tout petit peu la tendance que je n'ai pas à l'heure actuelle avec moi, mais promis, je vous la donne.
Bon, et alors en termes de délai, je m'attendais à ce que très vite les délais augmentent. Et là, je viens de faire la simulation. Si je commande donc le Mac auquel vous pensez l'un et l'autre, le MacBook Pro 14 pouces, M3 Pro, plutôt le mieux doté des deux modèles, on est toujours sur une livraison au 7 novembre, c'est-à-dire le jour de la sortie.
C'est des modèles pro, donc on va en vendre, mais ça ne va pas être la ruée comme sur le MacBook Air, qui est un produit 1400 à 1800 euros. Là, on est sur un produit à 3000. Donc, et puis certains vont vouloir passer sur du Max ou certains vont vouloir passer sur du CTO pour pouvoir configurer. Parce que dès que tu cliques sur un modèle et que tu regardes les options, tu peux en rajouter plein. Alors là, on sera sur des délais de 3-4 semaines sur du CTO, mais tu pourras avoir plus de mémoire. La seule chose que tu peux te poser, si tu es vraiment pro et que tu veux aller loin, est-ce que 18 gigas de mémoire suffisent ? Parce que 36 gigas, ça serait mieux. Je ne dis pas qu'on peut aller jusqu'à 128 gigas de mémoire, ce qui est beaucoup, beaucoup, mais c'est là où tu peux te dire, le reste va bien, mais est-ce qu'avec 18 gigas, c'est suffisant ? J'aurais tendance à dire oui, hein, personnellement, vu qu'en plus, ça pagine très, très vite et que tu ne vas pas t'en apercevoir. Mais les professionnels de la vidéo ou du son vont dire non, mais moi, je veux toutes mes pistes en mémoire. Moi, il me faut minimum 64 gigas. Hein. Donc, c'est ça qu'ils vont dire. Hein. Donc, du coup, il va y avoir beaucoup de CTO. Alors, les CTO, ça prend un peu plus de temps.
Ouais, c'est plusieurs
semaines. Ça me fait penser, tu vois, Élie, que par rapport à la conférence, on n'a pas eu justement des éditeurs invités pour vendre les nouvelles capacités comme on avait eu avec
pas le temps.
Ouais, ils n'avaient pas le temps, je pense, de le faire. Mais c'est vrai que souvent, pour les pros, ils ont parlé un petit peu de ciné 4D, l'outil de 3D, mais c'était assez rapide. Donc, je pense qu'il faudra vraiment voir les comparatifs avec les grands outils Final Cut, avec Resolve, avec les outils aussi de musique, de 3D, de Blender, etc. pour voir ça, parce qu'il y a quand même des changements sur le cache. On n'en a pas parlé, mais sur le GPU, il y a une nouvelle façon aussi de gérer ce qu'ils appellent le dynamic cache.
Le dynamic cache,
Le caching il change pas mal, donc je pense que ça, ils ont les produits, puis dans le temps, on va voir arriver les choses. Ils vont occuper en fait toute la scène, puisque comme on l'a dit, la partie PC sera pas prête avant le printemps 2024. On va voir les produits arriver en 2024, donc je pense on va avoir pas mal de choses arriver. Puis les pros sont raisonnables, ils ont des amortissements, ils ont des comptables qui leur disent c'est maintenant qu'il faut renouveler, pas avant. Hein, Élie, tu le sais, ça.
Oui. Mais c'est la bonne période. C'est là où Apple a été très, très malin. Parce que justement, on est dans une période où on reçoit tous les jours des tas et des tas de bons de commande d'administration, de grandes sociétés, parce qu'ils ont des budgets à dépenser avant la fin de l'année. Sinon, ils les perdent. Donc, et ça tombe vraiment. Et d'ailleurs, on passe énormément de temps à prendre toutes nos propositions qui sont arrivées depuis un mois et certaines qu'on n'a pas pu livrer en disant « arrêtez tout, on va vous refaire une proposition en M3, en M3 Pro et tout ça, parce que tant qu'à faire. Ouais, »
c'est l'occasion. Juste dernière simulation, Gilles. Attends, je te rends la main après pour conclure. J'ai mis dans mon panier un MacBook Pro 14 pouces M3 Max. Donc le premier modèle hein, à 3 999 €. Et la livraison de ce modèle, elle est prévue entre le 16 et le 23 novembre, donc avec une à deux semaines d'écart par rapport aux autres modèles. Voilà. Mais ce n'est pas non plus délirant.
C'est normal.
C'est pas délirant.
C'est ce qui avait été annoncé. C'était plus tard dans le mois de novembre.
Oui.
Pour le processeur Max.
Je voulais mettre la keynote,
Je voulais mettre un bémol. Étant donné que Apple, je me suis dit ça tout à l'heure, étant donné que Apple a poussé ses feux pour sortir plus vite que prévu initialement sa gamme M3, je vais peut-être attendre le trimestre prochain pour voir qu'est-ce qu'il en est des premiers retours et s'il n'y a pas des problèmes justement par rapport à cette hâte, ce calendrier un peu avancé. Les vieux Apple maniaques se souviennent de jamais acheter avant la révision B.
Ouais, mais je sais. Je te connais, Gilles. Tu veux le M4 maintenant. Je sais.
Non. Je suis au bout du.
En tout cas, les pas plus tard que le M5. Hein. Le M5, ça. Lui, ça va être le bon.
Bon, en tout cas, grand merci, mes amis, d'avoir été au rendez-vous. Fred Crassa, un plaisir de t'accueillir dans iWeek, comme d'habitude, évidemment.
Ouais, merci à tous. Merci pour l'accueil, c'est toujours un plaisir de vous revoir.
Merci pour tes explications super claires, et on apprend toujours beaucoup de choses avec toi, même si tu fais de petites nuits pour sortir tes visuels.
Ouais.
Merci encore. Salut Eli, à très vite.
Yes, à bientôt.
Bons achats, j'espère que tu vas réussir à te décider entre ces modèles. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Gilles, on te souhaite aussi de bons achats et tu nous raconteras.
Je vais essayer d'être raisonnable, sinon si je le suis pas, je vous le dirai. De toute façon, vous le verrez à l'image.
Ben oui.
La caméra est vachement meilleure sur les générations.
C'est sûr. Merci à vous, nos soutiens Patreon, qui nous êtes si fidèles sur patreon.com/iWeek. On a besoin de votre soutien, alors faites comme eux, rejoignez la communauté et profitez de la mise en ligne en avance de chaque épisode et puis aussi des bonus. Bonus qu'on ne fera pas cette semaine à nouveau parce qu'on est vraiment, vraiment très, très short en temps. Et puis, il nous manque notre Fabrice qu'on embrasse et qui sera de retour, on l'espère, la semaine prochaine. Et donc, ne nous en voulez pas. Le bonus reviendra sans doute la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. On est toujours là avec vous entre chaque épisode de LSA avec la quotidienne iWeek. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser aussi des notes et des avis sur Apple Podcast. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, donc on a besoin de vous pour redynamiser cette petite marque d'intérêt et d'affection de votre part qui est très utile à ceux qui nous découvrent. Passez une bonne soirée, une bonne journée et à très vite pour la suite. Bye bye, ciao.
Salut.
Bye bye.
Salut.